Casanova, Madame F. Après son escapade fameuse à l'île de Cassopo, Casanova est revenu se constituer prisonnier à Corfou. J'avais la chaîne au pied droit et on me débouclait le soulier du pied gauche pour achever cette belle décoration. Quand l'adjudant de son excellence vint ordonner à mon geôlier de me remettre mon épée et de me remettre en liberté. Je vous allais présenter mes hommages au noble gouverneur, mais un peu embarrassé, sans doute de sa contenance, l'adjudant me dit que son excellence m'en dispensait. J'allais de suite faire ma révérence au général, sans lui dire un seul mot. Mais lui, d'un air grave, me dit d'être plus sage à l'avenir et d'apprendre que le premier devoir d'un militaire était d'obéir, surtout d'être discret et modeste. Comprenant à merveille toute la signification de ces deux mots, je me réglai en conséquence. Mon apparition chez M. D.R. fit naître la joie sur tous les visages. Ces beaux moments m'ont toujours été si chers qu'en me faisant oublier les moments pénibles, ils m'ont constamment fait chérir la cause. Il est impossible de bien sentir un plaisir quand il n'a pas été précédé de quelques peines, et les jouissances ne sont grandes qu'en proportion des privations qu'on a souffertes. MDR fut si content de me voir qu'il vint à ma rencontre et m'embrassa tendrement. Il me dit ensuite, en me faisant présent d'une belle bague qu'il ôta de son doigt, que j'avais très bien fait de laisser ignorer à tout le monde, et à lui particulièrement, le lieu de ma retraite. « Vous le sauriez croire, » ajouta-t-il d'un air noble et franc, « combien Madame F. s'intéresse à vous. Vous lui feriez un grand plaisir en y allant dans l'instant. » Quel plaisir de recevoir ce conseil de lui-même. Mais ce mot « à l'instant » me fit de la peine, car ayant passé la nuit dans la felouque, je craignais que le désordre de ma toilette ne me nuisît à mes yeux. Je ne pouvais pourtant point reculer ni lui en dire la raison. Je pensais à m'en faire un mérite auprès d'elle. J'arrive. Oh, il ne faisait pas jour chez la déesse, mais sa femme de chambre me fit entrer en m'assurant que sa maîtresse ne tarderait pas à sonner et qu'elle serait bien fâchée de ne pas m'avoir vu. Pendant une demi-heure que je passais avec cette jeune personne, charmante, indiscrète, j'appris une foule de choses qui me firent un extrême plaisir, surtout une foule de propos qu'on avait tenus sur mon évasion. Et j'en tirai la conclusion que ma conduite dans toute cette affaire avait obtenu l'approbation générale. Aussitôt que madame eut vu sa femme de chambre, elle me fit appeler. On ouvre les rideaux et je crois voir l'aurore entourée de roses et de perles du matin. Je lui dis que, sans l'ordre que m'en avait donné MDR, je n'aurais jamais osé me présenter devant elle dans l'état où j'étais. Et du ton le plus suave, elle me répondit que MDR, sachant tout l'intérêt qu'elle me portait, avait très bien fait de me faire venir, m'assurant en même temps que M. MDR m'estimait autant qu'elle. « Je ne sais, madame, comment j'ai pu mériter un si grand bonheur, tandis que je n'aspirais qu'à des sentiments d'indulgence. Oh, nous avons tous admiré la force que vous avez eue de vous abstenir de passer votre épée au travers du corps de ce fou qu'on aurait jeté par la fenêtre s'il ne se fût évadé au plus vite. Oh, je l'aurais tué, madame, n'en doutez pas. » Si vous n'aviez pas été présente. Le compliment est fort galant, mais il n'est pas croyable que vous ayez pensé à moi dans ce moment. À ces mots, je soupire en baissant les yeux. et en détournant la tête. Elle voit ma bague et pour changer de conversation, elle se mit à me faire l'éloge de MDR dès qu'elle sut comment il m'avait fait ce présent. Elle voulut que je lui contasse la vie que j'avais menée dans l'île et je le fis, à l'exception de mes jolies couturières que j'eus soin de laisser sans voile. Car je savais déjà alors que, dans le commerce de la vie, il y a bon nombre de vérités qu'il faut laisser dans un officieux oubli. Tout ce que je lui dis la fit beaucoup rire, et ma conduite lui parut admirable. Auriez-vous, me dit-elle, le courage de raconter tout cela, mais dans les mêmes termes au proviseur général ? « Et n'en doutez pas, madame, pourvu qu'il m'en demandât la narration. »« Eh bien, tenez-vous prêt à me tenir parole. »« Je veux, ajouta-t-elle, que ce brave seigneur vous aime et qu'il devienne votre principal protecteur pour vous garantir des passe-droits. Laissez-moi faire. » En sortant de chez elle, cœur ravi de son accueil, j'allai chez le major Maroli pour m'informer de l'état de mes fonds, et j'appris avec plaisir qu'il ne m'avait plus tenu de moitié depuis ma disparition. Je retirai 400 sequins des mains du caissier, me réservant de rentrer en part quand les circonstances me paraîtraient convenables. Le soir, ayant eu soin de faire toilette, j'allai trouver l'adjudant Minotto pour aller avec lui faire une visite à Madame Sagredo, favorite du général. C'était à Corfou la plus jolie des dames vénitiennes, Madame F exceptée. Ma visite l'a surpris, car ayant été la cause de tout ce qui s'était passé, elle était loin de s'y attendre, croyant que je lui en voulais. Je la désabusais en lui parlant franchement. Elle me dit les choses les plus obligeantes, me priant d'aller quelquefois passer la soirée chez elle. À cette invitation fort aimable, j'inclinai la tête sans accepter ni refuser. Je savais que Madame F. ne pouvait point la souffrir. Comment aurais-je pu fréquenter ces soirées? D'ailleurs, cette dame aimait le jeu et, pour lui plaire, il fallait ou perdre ou la faire gagner. Or, pour se résoudre à l'une de ces deux conditions, il faut aimer l'objet et avoir des vues de conquête. Je n'étais pas dans cette disposition. L'adjudant Minotto ne jouait pas, mais il avait captivé ses bonnes grâces en faisant auprès d'elle le mercure galant. De retour à l'hôtel, je trouve Madame F. toute seule, M. EDR étant occupé à écrire. Assise auprès d'elle, elle m'engage à lui conter tout ce qui m'était arrivé à Constantinople. Je n'ai pas eu lieu de m'en repentir. Ma rencontre avec la femme de Josouf lui plut beaucoup, mais la nuit du bain des trois nymphes d'Ismaël l'a mis tout en feu. Je gazais tant que je pouvais, mais comme elle me trouvait obscure, elle m'obligeait à m'expliquer un peu mieux, et dès que je me faisais mieux comprendre en donnant à mes tableaux un vernis de volupté que je puisais plus dans ses regards que dans mes souvenirs, elle ne manquait pas de me gronder et de me dire que j'aurais pu être moins clair. Je sentais que la voie dans laquelle elle m'avait engagé devait lui donner une fantaisie en ma faveur. Et j'étais persuadé que celui qui fait naître des désirs peut facilement être condamné à les éteindre. C'était la récompense à laquelle j'aspirais. J'osais l'espérer, quoique je ne la visse encore qu'en perspective. Par hasard, ce jour-là, M. DR avait invité beaucoup de monde à souper. Je dus naturellement faire les frais de la conversation en racontant avec toutes les circonstances et le plus grand détail tout ce que j'avais fait et ce qui m'était arrivé depuis l'instant où j'avais reçu l'ordre de me rendre aux arrêts jusqu'à ma mise en liberté. M. Foscari, gouverneur de la Bastarde, était à mon côté et la fin de ma narration ne lui fut sans doute pas des plus agréables. Mon histoire plut du reste à toute la société et il fut décidé que M. le provéditeur général devait avoir le plaisir de l'entendre de ma bouche. Ayant dit qu'il y avait beaucoup de foin à Cassopo, article dont on manquait absolument à Corfou, M. DR me dit que je devais saisir cette occasion de me faire un mérite auprès du général en l'en prévenant sans retard. Je suivis cet avis dès le lendemain et je fus fort bien accueilli, car son excellence ordonna une corvée pour l'aller chercher et le transporter à Corfou. Deux ou trois jours après, étant un soir au café, l'adjudant Minotto va me dire que le général voulait me parler. Bon, juste que cette fois, je fus prompt à exécuter ses ordres. L'assemblée était fort nombreuse. J'entre tout doucement. Son Excellence me voit, déride son front et fait tourner sur moi tous les regards de la société en disant à haute voix « Voilà un jeune homme qui se connaît en prince !»« Monseigneur, lui dis-je à l'instant, je suis devenu connaisseur en ce genre à force d'approcher vos pareils. Ces dames sont curieuses de savoir tout ce que vous avez fait depuis votre disparition jusqu'à votre retour. » Vous me condamnez donc, monseigneur, à une confession publique. Fort bien, mais sur ce pied, prenez garde de mettre la plus petite circonstance, et figurez-vous que je ne suis pas ici. Mais au contraire, car ce n'est que de votre excellence que je veux attendre mon absolution. Mais l'histoire sera longue. Alors, dans ce cas, le confesseur vous permet de vous asseoir. Je conte mes histoires dans le plus grand détail, à l'exception pourtant de mes congrès fréquents avec les nymphes insulaires. Tout cet événement, me dit le vieillard, est instructif. Oui, monseigneur, car il montre qu'un jeune homme n'est jamais si en danger de périr que lorsque, agité d'une grande passion, il se trouve maître de se satisfaire moyennant une bourse d'or qu'il a dans sa poche. J'allais partir lorsque le maître d'hôtel va me dire que son excellence m'engageait à rester à souper. J'eus donc l'honneur de me trouver assis à sa table, mais non d'y manger. Car, obligé de répondre aux mille questions qu'on m'adressait de toutes parts, il me fut impossible de mettre un seul morceau dans ma bouche. Je me trouvais ainsi à côté du prole au papa Bulgari, et je lui demandais pardon d'avoir un peu ridiculisé l'oracle du papa Degdimopoulos. « Oh, c'est une friponnerie, me dit-il, à laquelle il est d'autant plus difficile de remédier qu'elle porte le cachet de l'Antiquité. » Au dessert, Madame F. ayant dit un mot à l'oreille du général, celui-ci m'adressa la parole en me disant qu'il entendrait bien volontiers ce qui m'était arrivé pendant mon séjour à Constantinople avec la femme du Turc Josouf, et chez un autre où j'avais été témoin d'un bain au clair de la lune. Fort surpris de cette espèce d'invitation, je lui dis que c'était de ces fredaines qui ne méritaient pas d'être comptées. Et j'en fus quitte, son excellence n'ayant pas insisté. Ce qui me frappa surtout, ce fut l'indiscrétion de Madame F, qui ne devait pas mettre tout Corfou dans le secret des comptes que je lui faisais tête à tête. Je la voulais jalouse de sa gloire, que j'aimais plus encore que sa personne. Deux ou trois jours après, me trouvant seul avec elle, elle me dit « Pourquoi n'avez-vous pas voulu conter au général vos aventures de Constantinople ?»« Ben parce que je ne veux pas que le monde sache que vous souffrez, que je vous entretienne de pareilles choses. Ce que j'ose, madame, vous conter en tête à tête, je ne vous le confierai certainement pas en public. Et pourquoi pas ? Il me semble au contraire que si, par un sentiment de respect, vous vous taisez en public, vous devriez d'autant plus vous taire quand je suis seul. Ayant le désir de vous divertir, je me suis exposé au danger de vous déplaire. Mais, madame, ça ne m'arrivera plus. Je ne veux pas chercher à connaître vos intentions. Mais il me semble que si vous aviez eu le désir de me plaire, vous n'auriez pas dû sciemment vous exposer à un résultat opposé. Nous allons souper chez le général, car M. D.R. est chargé de sa part de vous y mener. Il vous redira, j'en suis sûr, ce qu'il vous a dit la dernière fois, et vous ne pourrez pas éviter de le satisfaire. M. D.R. vint bientôt et nous partîmes ensemble. Je réfléchis en chemin que, malgré que Madame F. eût paru vouloir m'humilier, je devais estimer comme un coup de fortune ce qui venait d'arriver. Car en m'obligeant à me justifier, elle m'avait comme forcé à une déclaration qui ne pouvait être indifférente. Le preuve éditeur général m'accueillit fort bien, et me fit la grâce de me remettre une lettre qui s'était trouvée à mon adresse dans un paquet qu'il avait reçu le même jour de Constantinople. Après l'avoir remercié par une profonde révérence, je me mis en devoir de la serrer dans ma poche, mais il m'arrêta en me disant qu'il était amateur du nouveau et que je pouvais la lire. Je l'ouvre. C'était une lettre de Joseph qui m'annonçait la mort du comte de Bonneval. Au nom du bon Joseph, le général me pria de lui conter l'histoire qui m'était arrivée dans l'entretien que j'avais eu avec sa femme. Ne pouvant éluder l'invitation, je commence à conter une histoire qui dura une heure, qui intéressa fort son Excellence, en amusant la société, et dans laquelle il n'y avait de vrai que le sérieux que je mis dans le récit, car elle était toute de mon invention. Je suis évité par là d'avoir aucun tort envers mon ami Joseph, de compromettre Madame F. et de me montrer sous un jour peu avantageux. Sous le rapport du sentiment, l'histoire de mon invention me fit le plus grand honneur, et j'éprouvais une véritable joie, en jetant un regard sur Madame F., de lire sur ses traits qu'elle était contente, quoiqu'un temps soit peu interdite. De retour chez elle, et en présence de MDR, elle me dit que l'histoire que j'avais contée était fort jolie, quoiqu'elle ne fût qu'une fable. Oh, qu'elle ne m'en voulait pas, puisque je l'avais amusée, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer mon obstination à lui refuser la complaisance qu'elle m'avait demandée. Puis se retournant vers R.D., « Il prétend, ajouta-t-elle, qu'en racontant l'histoire de son entretien avec la femme de Joseph, sans en altérer la vérité, il aurait fait juger à l'Assemblée qu'il par des comptes indécents. Je veux vous en soyez juge. Voulez-vous, me dit-elle, avoir la bonté de conter de suite cette rencontre dans les mêmes termes que vous avez employés dans votre premier récit ? Oui, madame, je le puis, si je le veux. » Piqué au vif d'une indiscrétion qui, ne connaissant pas encore bien les femmes, me semblait sans exemple, sans éprouver la moindre crainte d'échouer, je compte l'aventure en peintre passionné, animant le tableau de toutes les couleurs de la passion, et sans gazer aucun des mouvements que la vue des beautés de la grecque avait éveillés en moi. « Et vous trouvez, dit M. Herdé à madame, qu'il aurait dû compter ce fait en pleine société, comme il vient nous le conter ici. Mais s'il avait mal fait de le conter en public, il a donc mal fait de me le raconter en tête à tête. Mais nul que vous ne le peut savoir. Oui, s'il vous a déplu. Non, s'il vous a diverti. Pour moi, je vous dirais qu'ici, il m'a fort amusé, mais qu'il m'aurait beaucoup déplu s'il l'avait conté, comme ici, devant une nombreuse société. Eh bien, me dit alors Madame F., dorénavant, je vous prie de ne jamais me raconter en particulier que ce que vous pourrez répéter en public. Madame, je vous promets d'en faire la règle de ma conduite. Bien entendu, ajouta M. Herdé, que Madame conserve dans toute son intégrité le droit de révoquer cet ordre toutes les fois qu'elle le jugera bon. J'étais piqué, mais je sus dissimuler mon dépit. Un instant après, nous partîmes. J'apprenais à connaître à fond cette femme charmante, mais à mesure que je pénétrais dans le secret de son caractère, je prévoyais toutes les épreuves auxquelles elle me soumettait. N'importe, mon amour l'emportait. Et, voyant l'espérance en perspective, j'avais le courage de braver les épines pour parvenir à cueillir la rose. Ce qui me faisait surtout grand plaisir, c'était de voir que M. D.R. n'était point jaloux de moi, lors même qu'elle semblait le délier fié de l'être. C'était un grand point. Quelques jours après, l'entretenant de diverses choses, la conversation tomba sur le malheur que j'avais eu d'entrer dans le lazaret d'Ancône sans le sou. Malgré cela, lui dis-je, j'y devins amoureux d'une jeune et belle esclave grecque, qui faillit me faire violer les lois sanitaires. Comment cela ? Oh, madame, vous êtes seule, et je n'ai pas oublié vos ordres. C'est donc bien indécent. Non, mais je ne voudrais point vous le dire en société. Eh bien, dit-elle en riant, je révoque l'ordre, comme l'a dit M. Herdé, parlez. Je lui fis alors le récit bien détaillé et bien fidèle de toute l'aventure. Et comme je la voyais pensive, je lui exagérais mon malheur. Mais qu'appelez-vous votre malheur ? Je trouve la pauvre grecque bien plus à plaindre que vous. Vous ne l'avez plus revue ? Pardon, madame, mais je n'ose vous le dire. Finissez à présent, c'est une bêtise. Dites-moi tout. Je m'attends à quelque noirceur de votre part. Bien loin de là, madame. Ce fut une jouissance bien douce, quoique imparfaite. Dites, mais ne nommez pas les choses par leur nom. C'est l'essentiel. Après ce nouvel ordre, je lui dis, sans la regarder au visage, ma rencontre avec la grecque en présence de Berlino et l'action non achevée qui se passa, comme par inspiration, jusqu'au moment où cette charmante esclave s'arracha de mes bras à l'approche de son maître. Madame F. ne disait rien, et je fis tomber la conversation sur un autre sujet. Car si j'étais avec elle sur un excellent pied, je sentais que je devais aller à pas comptés, jeune comme elle l'était. Je pouvais être certain qu'elle ne s'était jamais mésalliée, et ce que je méditais devait lui paraître une mésalliance du premier ordre. La fortune qui m'avait toujours favorisé dans les occasions les plus désespérées ne voulut pas, cette fois, me traiter en marâtre. Et elle me procura, le jour même, une faveur d'une nature particulière. Ma belle dame, c'est en fait une forte piqûre au doigt. Après avoir poussé un cri perçant, me tend sa belle main en me priant de lui sucer le sang. On ne peut juger si je fus profond, prompt à me saisir d'une main si belle. Et si mon lecteur est amoureux ou s'il l'a jamais été, il devinera comment je m'acquittais de cette agréable besogne. Qu'est-ce qu'un baiser ? N'est-ce pas le désir ardent d'aspirer une portion de l'être qu'on aime ? Et si le sang que je suçais de cette charmante blessure, qu'il est-il qu'une partie de l'être que j'idolâtrais ? Quand j'eus fini, elle me remercia affectueusement en me disant de cracher le sang que j'avais sucé. « Mais il est bien là, lui dis-je en portant la main sur mon cœur, et Dieu sait le plaisir qu'il m'a fait. Vous avez avalé mon sang avec plaisir, êtes-vous donc anthropophage ? Bon, je ne le crois pas, madame, mais j'aurais craint de vous profaner si j'en avais laissé perdre une goutte. Un matin, quelqu'un vient de la part de Manamef me dire qu'elle désirait me parler. Il était 11 heures, je m'y rends sans retard, et on lui a demandé en quoi je pouvais lui être agréable. « Oh, c'est, me dit-elle, pour vous rendre les 200 sequins que vous m'avez prêtés si noblement. Les voilà, veuillez me rendre mon billet. »« Ah, votre billet, madame, c'est plus en mon pouvoir. Il est déposé, sous enveloppe bien cachetée, chez le notaire, qui, conformément à cette quittance, ne peut le remettre qu'à vous-même. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas gardé près de vous ? À crainte qu'on me le volât, ou de peur de le perdre. Et si j'étais venu à mourir, je n'aurais pas voulu qu'il tombât en d'autres mains que les vôtres. Votre procédé est certainement délicat, mais il me semble que vous auriez dû garder le droit de le retirer vous-même des mains du dépositaire. Mais je n'ai point prévu le cas possible de le retirer. Et cependant, le cas aurait pu facilement arriver. Je puis donc faire dire au notaire de m'envoyer l'enveloppe. Mais sans doute, madame, et vous seul le pouvez. Elle envoya prévenir le notaire qui va lui remettre son dépôt. Elle brise l'enveloppe et ne trouve qu'un papier barbouillé de noir, mais parfaitement illisible, excepté son nom que j'avais respecté. « Ceci, me dit-elle, prouve de votre part une façon d'agir aussi noble que délicate. » Mais avouez que je ne puis pas être sûr que ce chiffon soit réellement mon billet, quoique j'y voie mon nom. C'est vrai, madame, et si vous n'en êtes pas sûr, j'aurai tous les torts du monde. J'en suis sûr parce que je dois l'être, mais vous conviendrez que je ne pourrai pas en jurer. J'en conviens. Les jours suivants, il me parut qu'elle m'avait tout à fait changé à mon égard. Elle ne me recevait plus en déshabillé et je devais me morfondre à attendre que sa femme de chambre l'eût habillé avant d'être admis dans son intérieur. Plein de dépit, je séchais, car je ne savais à quoi attribuer ce changement d'humeur auquel il me semblait n'avoir point donné le plus petit motif. Je voulais me décider à lui donner des marques ouvertes de mon mépris, mais quand l'occasion se présentait, je n'en avais pas le courage. Un soir, M. D.R. m'ayant demandé si j'avais été souvent amoureux, « Oh, 3 fois, monseigneur, lui répondis-je. Et toujours heureux, n'est-ce pas ? Oh non, toujours malheureux. La première, peut-être parce qu'étant abbé, je n'osais point me découvrir. La seconde, parce qu'un événement cruel et imprévu me força à m'éloigner presque subitement de l'objet que j'aimais au moment où j'allais voir couronner mes voeux. Et la troisième, parce que la pitié que j'ai inspirée à la personne qui m'avait enflammé lui a fait venir l'envie de me guérir de ma passion au lieu de me rendre heureux. Et quel spécifique a-t-elle employé pour cela? Elle a cessé d'être aimable. Oh, j'entends, elle vous a maltraité. Et vous appelez cela de la pitié, mais vous vous trompez. Certainement, dit madame, on a pitié de quelqu'un qu'on aime, et on ne veut pas le guérir en le rendant malheureux. Cette femme-là ne vous a jamais aimé. Non, je ne veux pas le croire, madame, mais êtes-vous guérie? Parfaitement, car lorsqu'il m'arrive de penser à elle, je me trouve froid et indifférent. Mais ma convalescence a été longue. Elle a duré, je pense, jusqu'à ce que vous soyez devenu amoureux d'une autre. D'une autre, madame, et je croyais vous avoir dit que ma troisième avait été la dernière. À peu de jours de là, monsieur D.R. me dit que madame F. était indisposée et qu'il ne pouvait pas lui aller tenir compagnie, mais que je devais y aller, certain que cela lui ferait beaucoup de plaisir. J'obéis et je rends mot à mot le compliment de monsieur D.R. Madame F. était couchée sur son sofa. Elle me répondit, sans me regarder, qu'elle croyait avoir la fièvre et qu'elle ne m'engageait pas à rester, persuadée que je m'ennuierais. Mais je ne saurais m'ennuyer auprès de vous, madame. D'ailleurs, je ne puis m'en aller que par votre ordre absolu. Et dans ce cas, j'irai passer ces 4 heures à votre antichambre, car monsieur D.R. m'a dit de l'attendre ici. Alors, dans ce cas, asseyez-vous, si vous voulez. J'étais rebuté d'une expression si sèche, mais je l'aimais. Et je ne l'avais jamais vue si belle. Son indisposition animant son teint d'une manière à le rendre éblouissant. Je restais là, muet, immobile, comme une statue, pendant un quart d'heure. Alors, ayant sonné sa femme de chambre, elle me pria de la laisser un instant. M'ayant fait rentrer peu de minutes après, elle me demanda ce que ma gaieté était devenue. Oh, si ma gaieté a disparu, madame, ce ne peut être que par vos ordres. Rappelez-la, et vous la verrez reparaître dans toute sa vigueur à votre présence. Et que faut-il que je fasse pour la rappeler? Eh bien, être à mon égard comme vous étiez à mon retour de Casopo. Je vous déplais depuis 4 mois, et comme je ne peux pas savoir pourquoi, j'en suis profondément affligé. Mais je suis toujours la même. En quoi me trouvez-vous donc changée? Juste ciel en tout, excepté dans votre individu. Mais j'ai pris mon parti. Et quel est-il? Celui de souffrir en silence, sans que jamais rien puisse diminuer les sentiments que vous m'avez inspirés, toujours plein du désir de vous convaincre de ma parfaite soumission, toujours attentif à vous donner de nouvelles marques de mon zèle. Je vous remercie, mais je ne sais pas ce que vous pouvez souffrir en silence à cause de moi. Je m'intéresse à vous et j'écoute toujours vos aventures avec plaisir. Pour preuve, c'est que je suis très curieux de vous entendre raconter vos 3 amours. J'invente sur le champ 3 historiettes faites à plaisir, faisant parade de sentiments et d'amour parfaits, sans jamais effleurer la jouissance, surtout lorsque je croyais entrevoir qu'elle s'y attendait. Tantôt la délicatesse, tantôt le respect, quelquefois le devoir y mettait obstacle. Mais alors j'avais soin d'observer qu'un véritable amant n'avait pas besoin de cette condition-là pour se croire parfaitement heureux. Je voyais facilement que son imagination allait plus loin que mes récits, et je m'apercevais aussi que ma réserve lui plaisait. Je croyais la connaître assez bien pour pouvoir juger que je prenais le meilleur moyen de la mener au but où je la désirais. Elle fit une réflexion qui me toucha sensiblement, mais j'eus soin de n'en rien laisser paraître. Il s'agissait de celle des trois qui, par pitié, avaient entrepris de me guérir. « S'il est vrai, dit-elle, qu'elle vous aima, il se peut qu'elle n'ait pas pensé à vous guérir, mais bien à se guérir elle-même. » Le lendemain de cette espèce de raccommodement, M. F., son époux, pria mon général D.R. de permettre que j'allasse à Patrinto pour une excursion de 3 jours, son adjudant étant dangereusement malade. Je partis et le 4e jour, nous ramenâmes à Corfou une grande provision de bois. Je rentrai chez MDR, que je trouvais seul sur la terrasse. C'était le Vendredi Saint. Il était pensif, et après un instant de silence, il me tint ce discours que je n'oublierai jamais. Monsieur F., dont l'adjudant mourut hier, vient de me prier de vous céder à lui jusqu'à ce qu'il ait pu s'en procurer un autre. Oh, je lui ai répondu que je ne me crois pas en droit de disposer de vous, qu'il devait s'adresser à vous-même, l'assurant que si vous en demandiez la permission, je n'y mettrais aucune difficulté, quoi qu'il me faille 2 adjudants. Il ne vous en a rien dit depuis votre retour? Non, rien, monseigneur. Il m'a remercié d'avoir été à Butrinto sur sa galère. Et rien de plus. Il vous en parlera sans doute. Et que lui direz-vous? Oh, il est tout simple que je lui dirai que je ne quitterai jamais votre Excellence sans son ordre express. Oh, je ne vous donnerai certainement jamais cet ordre. Comme MDR achevait ces mots, voilà monsieur et madame F. qui entrent. Sachant de quoi il allait probablement être question, je me hâte de sortir. 1 quart d'heure après, on m'appelle et M. F., d'un ton de confiance, me dit « N'est-il pas vrai, M. Casanova, que vous viendrez volontiers demeurer avec moi en qualité d'adjudant ? Ah, son Excellence me donne donc congé. Nullement, me dit MDR, mais je vous laisse l'option. « Monseigneur, il m'est impossible d'être ingrat. » Je demeurai là, debout, décontenancé, tenant les yeux à terre et ne cherchant pas à cacher ma mortification, qui ne pouvait être que l'effet de ma situation. Je redoutais les regards de madame F., que je n'aurais pas voulu rencontrer pour tout l'or du monde, d'autant plus que je savais qu'elle pouvait deviner tout ce qui se passait en moi. Son mari, un instant après, dit froidement, comme un sot, qu'il était bien vrai que j'aurais un service beaucoup plus fatigant auprès de lui qu'auprès de MDR, et que, d'ailleurs, il y avait plus d'honneur à servir le gouverneur des galères qu'un simple sopra comito. J'allais répondre lorsque madame, prenant la parole, dit d'une voix gracieuse et d'un air très aisé, « Monsieur Casanova a raison. » Là-dessus, on se mit à parler d'autre chose, et je sortis pour aller réfléchir à ce qui venait de se passer. Je finis par conclure que Monsieur F. ne pouvait m'avoir demandé à MDR qu'excité par sa femme, ou au moins qu'après avoir eu son consentement. Cela flattait à la fois mon amour et mon amour-propre. Cependant, mon honneur était intéressé à ne me laisser accepter cette mutation qu'autant que j'aurais l'assurance que cela ferait plaisir à mon chef actuel. J'accepterai, me dis-je, lorsque MDR me dira positivement que je lui ferai plaisir en acceptant. C'est l'affaire de M. F. La même nuit, j'eus l'honneur de donner le bras à Madame F. pendant la procession qu'on fait en commémoration de la mort de Jésus-Christ et à laquelle toute la noblesse va à pied. Je m'attendais qu'elle me dirait un mot sur l'affaire, mais elle resta muette. Mon amour était au désespoir et je passais la nuit sans pouvoir fermer l'œil. Je craignais que mon refus ne l'eût offensé, et cela me perçait le cœur. Le lendemain, je ne pris aucune nourriture. Et le soir, à l'assemblée, je ne dis pas un mot. Je me sentais malade, et j'allais me coucher avec une fièvre qui me força à garder le lit le premier jour de Pâques. Le lendemain, très faible, je voulais garder la chambre, quand un messager de Madame F. m'avertir qu'elle voulait me parler. Je défends au messager de dire qu'il m'avait trouvé au lit, je me lève et me rends chez elle. J'entre dans son cabinet, pâle d'effet, et pourtant elle ne s'informe pas de ma santé, gardant un moment le silence, comme pour se rappeler pourquoi elle m'avait fait appeler. « Ah oui, vous savez que notre adjudant est mort et que nous avons besoin de le remplacer. Mon mari, qui vous aime, certain que MDR vous laisse le maître d'accepter, s'est mis dans la tête que vous viendriez si je vous demande ce plaisir moi-même. Se trompe-t-il? Si vous voulez venir, vous aurez cette chambre-là. » Elle me montre une chambre contiguë à celle où elle couchait et située de manière que, pour la voir dans tous les coins, je n'avais pas même besoin de me mettre à ma fenêtre. « Monsieur D.R. » me dit-elle, « ne vous en aimera pas moins. Et comme il vous verra chaque jour chez moi, il n'oubliera point vos intérêts. Dites-moi maintenant, voulez-vous venir ou non ? » ?»« Je le voudrais, madame, mais je ne le puis. » »« Vous ne le pouvez pas. C'est singulier. Asseyez-vous et dites-moi ce qui vous empêche, quand, en acceptant, vous êtes sûr de plaire à MDR comme à nous. » »«
Si j'en étais sûr, j'accepterais à l'instant. » Mais tout ce que j'ai entendu de sa bouche, c'est qu'il me laisse le maître.
Vous craignez donc de lui faire de la peine en venant chez nous?
Cela pourrait être, et pour rien au monde.
Je suis sûr du contraire.
Ayez la bonté de faire qu'il me le dise.
Et alors, vous viendrez?
Oh mon Dieu, à l'instant!
Ah, cette exclamation qui peut-être en disait trop. Je détournai les yeux pour ne pas l'embarrasser. Pendant ce temps, elle demanda son mantelet pour aller à la messe, et nous sortîmes. En descendant l'escalier, elle appuya sa main toute nue dans la mienne. C'était la première fois que j'obtenais cette faveur. On doit deviner si j'en tirais bon augure. En quittant ma main, elle me demanda si j'avais la fièvre. « Car, me dit-elle, vous avez la main brûlante. » Lorsque nous sortîmes de l'église, je lui offris ma main pour l'aider à monter dans la voiture de MDR que nous rencontrâmes par hasard. Aussitôt que je l'eus quittée, je me hâtai de rentrer chez moi pour respirer en liberté et me livrer à toute la joie de mon âme. Car je ne doutais plus d'être aimé, et je ne pensais pas que M. D.R. pût rien refuser à Madame F. dans cette circonstance. Qu'est-ce que c'est que l'amour ?
Oh, j'ai lu bien du verbiage antique sur ce sujet. J'ai lu aussi la plupart de ce qu'on dit, les modernes. Mais ni tout ce qu'on en a dit, ni tout ce que je m'en suis dit moi-même, et pendant que j'étais jeune, et maintenant que je ne le suis plus, rien ne me fera avouer que l'amour soit une bagatelle, ni une vanité. C'est une espèce de folie, oui, mais sur laquelle la philosophie n'a aucun pouvoir. C'est une maladie à laquelle l'homme est sujet à tout âge, et qui est incurable si elle l'atteint dans la vieillesse. Amour, être, sentiment indéfinissable, Dieu de la nature, douce amertume, amertume cruelle. Amour, monstre charmant qu'on ne peut définir, et qui, au milieu de mille peines que tu répands sur la vie, sème l'existence de tant de plaisirs que, sans toi, l'être et le néant seraient unis et confondus. Le surlendemain, M. DR me dit d'aller prendre les ordres de M. F sur sa galère, qu'il allait mettre à la voile pour 5 ou 6 jours. Je vais vite faire mon paquet et puis je me rends auprès de mon nouveau chef, qui me reçut fort bien, et nous partîmes sans voir madame qui dormait encore. 5 jours après, nous rentrâmes dans le port et j'allais m'établir dans ma chère nouvelle demeure. Car au moment où je me disposais à me rendre auprès de M. DR pour lui demander ses ordres, il se présenta lui-même et après avoir demandé à M. F. s'il avait été content de moi et m'avoir fait la même question par rapport à M. F., il me dit « Casanova, puisque vous êtes content l'un de l'autre, vous pouvez être persuadé que vous me faites un véritable plaisir en demeurant au service de M. F. » Je me soumis respectueusement et en moins d'une heure, je me trouvais établi en pied dans ma nouvelle sphère. Madame F. me dit qu'elle était ravie que cette grande affaire fût enfin terminée selon ses désirs. Je lui répondis par une profonde révérence. Me voilà enfin, comme la salamandre, dans le feu où je désirais être. Presque toujours sous les yeux de madame, dînant souvent en tête avec elle, l'accompagnant souvent à la promenade, seul, quand M. DR n'était pas des nôtres, la voyant de ma chambre, même quand j'écrivais, ou m'entretenant avec elle dans la sienne, toujours soumis et attentif, sans avoir la moindre prétention, je passais ainsi les 15 premiers jours, sans que ce rapprochement d'être réciproque n'apportât aucun changement à notre manière. Cependant, j'espérais, et pour animer mon courage, je me figurais que l'amour n'était pas encore assez fort pour vaincre son orgueil. J'attendais tout de l'occasion que je me proposais bien de saisir dès qu'elle se présentait, car j'étais persuadé qu'un amant qui ne saisit pas la fortune par le toupet est perdu. Ce qui me déplaisait, c'était qu'en public, elle semblait s'étudier à me prodiguer les distinctions, tandis qu'en particulier, elle en paraissait avare. J'avais tout l'air d'être heureux aux yeux du monde, mais j'aurais voulu le paraître moins et l'être réellement un peu plus. Mon amour pour elle était pur, la vanité ne s'en mêlait pas. Un jour que j'étais seul avec elle, elle me dit « Vous avez des ennemis, mais hier soir, je les ai forcés au silence. »« Oh, ce sont des envieux, madame, auxquels je ferais pitié s'ils étaient dans le secret de mon cœur, et dont vous pourriez facilement me délivrer. »« Mais comment leur feriez-vous pitié, je vous prie ? Et moi, comment pourrais-je vous en délivrer ? » Mais il me croit heureux et je languis. et vous m'en délivreriez si vous me traitiez mal. Vous seriez donc moins sensible à mes mauvais traitements qu'à l'envie des méchants ?
Oui, madame, pourvu que les mauvais traitements publics fussent compensés par vos bontés, en particulier. Car, dans le bonheur que j'ai de vous appartenir, je ne me sens animé par aucun sentiment de vanité. Qu'on me plaigne, je serai heureux, pourvu qu'on se trompe. Mais c'est un rôle que je ne saurais jamais jouer. J'avais souvent l'indiscrétion de me tenir derrière le rideau de la fenêtre de ma chambre pour la regarder à loisir lorsqu'elle devait se croire sûre de n'être vue par personne. Mais dans cette position, les larcins que je faisais étaient bien insignifiants, car soit qu'elle se douta que je la voyais, soit qu'elle le fît par habitude, tout était si mesuré que, lors même que je la voyais dans son lit, mon bonheur n'allait pas au-delà de sa charmante tête. Un jour que sa femme de chambre lui épointait ses longs et beaux cheveux en ma présence, je m'amusais à ramasser toutes ces jolies petites rognures et je les posais au fur et à mesure sur sa toilette, à l'exception d'une petite mèche que je mis dans ma poche, pensant qu'il n'y aurait pas pris garde. Mais aussitôt que nous fûmes seuls, elle me dit avec douceur, mais un peu trop sérieusement, de tirer de ma poche les cheveux que j'avais ramassés. Trouvant cela trop fort, une rigueur pareille, me paraissant aussi cruelle qu'injuste et déplacée, j'obéis, mais je jetai les cheveux sur sa toilette de l'air le plus dédaigneux possible. « Monsieur, vous vous oubliez ?»«
Non, madame, car vous auriez pu faire semblant de ne vous être point aperçu de cet innocent larcin. »«
Mais on se gêne à faire semblant. »«
Mais que pouvez-vous soupçonner de si noir dans mon âme pour un vol aussi puéril ?»
Ou rien de noir, mais des sentiments qui ne vous a point permis d'avoir pour moi.
Des sentiments auxquels vous ne pouvez point répondre, madame, mais qui ne peuvent m'être défendus que par la haine ou l'orgueil. Si vous aviez un cœur, vous ne seriez victime ni de l'un ni de l'autre. Mais vous n'avez que de l'esprit. Il doit être méchant par le soin qu'il met à m'humilier. Vous avez surpris mon secret, madame. Vous en ferez tel usage que bon vous semblera, mais en revanche, j'ai appris à vous bien connaître. Cette connaissance me sera utile plus que votre découverte, car je deviendrai sage, peut-être. Après cette incartade, je sors et, ne m'entend pas rappeler, je vais m'enfermer dans ma chambre. Et, dans l'espoir de me calmer par le sommeil, je me déshabille et me mets au lit. Dans ces sortes de moments, un amoureux trouve détestable l'objet qu'il aime. Son amour, changé en dépit, ne distille plus que la haine et le mépris. Il me fut impossible de m'endormir, et quand on vint me chercher pour souper, je fis dire que j'étais malade. La nuit se passa sans que je fermasse l'œil. Me sentant abattu, je résolus de voir ce que je serais et je refusais d'aller dîner, disant toujours que j'étais malade. Le soir, je sentis mon cœur palpiter d'aise lorsque j'entendis ma belle dame entrer dans ma chambre. L'inquiétude, la diète et l'insomnie me donnaient réellement l'air malade, et j'en étais ravi. Je me débarrassai bientôt de sa visite en lui disant d'un air d'indifférence que ce n'était qu'un violent mal de tête auquel j'étais sujet, et que la diète et le repos ne tarderaient pas à me guérir. Vers les 11 heures, voilà de nouveau Madame et son ami, Monsieur D.R., qui entrent dans ma chambre, s'approchant affectueusement de mon lit. « Qu'avez-vous, mon pauvre Casanova ?» me dit-elle. « Oh, un grand mal de tête, madame, mais dont je serai guéri demain. Mais pourquoi voulez-vous attendre à demain ? Il faut vous guérir de suite. Je vous ai ordonné un bouillon et 2 œufs frais. Non, rien, madame, la diète seule peut me guérir. Il a raison, dit M. D.R. Je connais cette maladie. Je branlais légèrement la tête. M. D.R. s'étant mis à considérer une estampe, elle saisit ma main en me disant qu'elle serait charmée de me voir prendre un bouillon. Et en la retirant, je sentis qu'elle me laissait un petit paquet et ensuite elle alla examiner l'estampe avec M. D.R. J'ouvre le paquet, je sens des cheveux. Je m'empresse de les cacher sous la couverture, mais en même temps je me sens monter le sang à la tête d'une manière qui m'effraie. Je demande de l'eau. Elle s'approche avec M. D.R. et ils sont effrayés de me voir ainsi enflammé, tandis qu'ils venaient de me voir pâle et défait. Elle me donna un verre d'eau dans laquelle elle mêla de l'eau des carmes et qui provoqua à la minute un vomissement violent. Un instant après, je me trouve mieux et je demande à manger. Elle sourit. La femme de chambre entre avec le bouillon, les œufs et tout en prenant ce restaurant, je leur conte l'histoire de Pandolfin. M. D.R. croyait voir un miracle, et je lisais sur les traits de cette femme adorable l'amour, l'amitié et le repentir. Sans la présence de M. D.R., c'eût été le moment de mon bonheur, mais je me voyais certain qu'il n'était pas différé. M. D.R. dit à Mme F., que s'il n'avait pas vu vomir, il aurait cru que ma maladie était feinte, car, selon lui, il n'était pas possible de passer si rapidement de la tristesse à la gaieté. « C'est la vertu de mon eau, » dit madame en me regardant, « et je vais vous laisser mon flacon. »« Non, madame, non, daignez l'emporter, car sans votre présence, votre eau serait sans vertu. » « Et je le crois aussi, » dit monsieur. « Ainsi, je vous laisse ici avec le malade. »« Non, non, » dit-elle, « il faut le laisser dormir. » Je dormis en effet toute la nuit, mais avec elle, en songe, et la réalité n'aurait rien pu ajouter à mes jouissances du moment. Je me trouvais très avancé, car 34 heures de diète me donnaient le droit de lui parler d'amour ouvertement, et le don de ses cheveux était un aveu irréfragable de sa part. Le lendemain, après avoir souhaité le bonjour à M. F., j'allais jaser un moment avec la femme de chambre en attendant qu'il fît jour chez madame. J'eus le plaisir de l'entendre rire quand elle sut que j'étais là. Elle me fit entrer, et sans me laisser le temps de lui dire un mot, elle me dit qu'elle était ravie de me voir bien portant et que je devais aller souhaiter le bonjour à M. D.R. Ce n'est pas seulement aux yeux d'un amant qu'une belle femme est mille fois plus ravissante au moment où elle sort des bras du sommeil qu'en sortant de sa toilette, mais bien aux yeux de tout homme qui la voit en cet état. Madame Franthe, dans cet instant, m'inonda de plus de rayons que n'eût répandu le soleil quand il se montre après l'aurore. Malgré cela, la femme la plus belle est attachée à sa toilette tout comme celle qui ne saurait s'en passer, car plus on a et plus on veut avoir. Dans l'ordre que me donna Madame F., je vis un nouveau motif de certitude d'un bonheur prochain. Car en me renvoyant, me disais-je, elle a voulu se mettre à l'abri des exigences que j'aurais pu avoir et qu'elle aurait dû satisfaire. Riche de ses cheveux, j'ai consulté mon amour pour savoir ce que je devais en faire. Car voulant réparer l'avarice sentimentale qu'elle m'avait montrée en m'obligeant à remettre les petites rognures, elle m'en avait donné une mèche suffisante pour en faire une tresse. Ils avaient une aune et demie de longueur. M'étant fixé sur l'emploi, j'allais chez un confiturier dont la fille était bonne brodeuse et je me fis broder devant moi sur un bracelet de satin vert les quatre lettres initiales de nos noms. Ensuite, elle me fit du reste un cordon très mince. À l'un des bouts, je fis mettre un ruban noir tournant, formant un lacet, et qui aurait pu me servir à m'étrangler si jamais l'amour m'avait réduit au désespoir. Je m'en fis un collier. Ne voulant rien perdre d'un bien si précieux, je coupe avec des ciseaux ce qui me restait des cheveux, j'en fais une poudre très menue, et j'engage le confiseur à les mêler en ma présence dans une pâte d'ambre, de sucre, de vanille, d'angélique, d'alkermès et de styrax. Et j'attendis que les dragées résultant de ce mélange fussent faites avant de m'en aller. J'en fis faire de pareil avec les mêmes ingrédients, à l'exception des cheveux, et je mis les premières dans une belle bonbonnière de cristal de roche et les secondes dans une boîte d'écailles. Depuis que par le don de ses cheveux, elle m'avait mis dans le secret de son cœur, je ne m'amusais plus à lui faire des comptes. Je ne l'entretenais plus que de ma passion et de mes désirs. Je lui disais qu'elle devait ou me bannir de sa présence ou me rendre heureux. Mais la cruelle n'en convenait pas. Elle me disait que nous pouvions être heureux qu'en nous abstenant de violer nos devoirs. Quand je me jetais à ses pieds pour obtenir d'avance le pardon des violences que je voulais lui faire, elle me repoussait par une force bien supérieure à celle d'un Alcide femelle. Car elle me disait, avec une voix pleine d'amour et de sentiments, « Mon ami, je ne vous supplie pas de respecter ma faiblesse, mais daignez m'épargner en faveur de l'amour que j'ai pour vous. »« Quoi ? » lui disais-je, « vous m'aimez, vous ne vous déterminerez jamais à me rendre heureux. Ce n'est ni croyable ni naturel. Vous me forcez à croire que vous ne m'aimez pas. Mais laissez-moi un instant coller mes lèvres sur les vôtres, je ne vous demande pas davantage. » « Non, mon ami, non, mon non, me disait-elle, car cela ne ferait qu'enflammer vos désirs, ébranler mes résolutions, et nous nous trouverions encore plus malheureux. » Elle me mettait ainsi chaque jour au désespoir, et ensuite elle se plaignait qu'on ne me trouvât plus en société cet esprit, cet enjouement qui lui avait tant plu à mon arrivée à Constantinople. Et M. D.R., qui souvent par esprit de gentillesse me faisait la guerre, me disait que je maigrissais à vue d'œil. Un jour, Madame F. me dit que cela lui déplaisait, car les méchants, en observant la chose, pourraient peut-être juger qu'elle me traitait mal. Pensée singulière et qui semble hors de nature. J'en fis une idylle que je n'y pas encore aujourd'hui, sans sentir ma paupière humide. « Mais comment, lui dis-je, vous reconnaissez votre cruauté à mon égard? Mais lorsque vous craignez que le monde ne devine vos rigueurs, vous vous plaisez à y persister? Vous me faites endurer tous les tourments d'un tantale. Oh, vous seriez enchanté de me voir gai, rayonnant, lors même qu'on jugerait que c'est par les bontés que vous seriez censé avoir pour moi, et vous me refusez les plus légères faveurs. Eh bien, qu'on le croit, pourvu que je ne sois pas vrai. Mais quel contraste! Serait-il possible que je ne vous aimasse pas, que vous ne sentissiez rien pour moi? Ces contradictions me semblent hors de nature. Mais vous maigrissez aussi, et moi, je me meurs. Voici ce qui nous arrivera immanquablement. Nous mourrons avant longtemps, vous de consomption, moi d'épuisement, car je suis réduit à jouir de votre fantôme le jour, la nuit et toujours partout, excepté quand je suis en votre présence. À cette déclaration, faite avec l'accent de la passion, je la vis étonnée, attendrie, et je crus le moment du bonheur arrivé. Je la saisis entre mes bras, et déjà je me procurais les prémices. La sentinelle frappa deux coups. Quel funeste contretemps! Je me remets, me mettant debout devant elle. Monsieur D.R. paraît, et pour cette fois, il me trouva de si belle humeur qu'il resta avec nous jusqu'à 1 heure après minuit. Mes dragées commençaient à faire du bruit. Monsieur D.R., Madame F. et moi étions les seuls qui en eussions la bonbonnière pleine. J'en étais avare et personne n'osait m'en demander, parce que j'avais dit qu'elle coûtait cher et qu'il n'y avait pas à Corfou de confiseurs capables de les imiter, ni de physiciens en état d'en faire l'analyse. Je n'en donnais surtout à personne de ma boîte de cristal, et Madame F. l'avait fort bien observé. Je ne les croyais certainement pas un filtre amoureux, et j'étais loin de supposer que les cheveux pussent les rendre plus exquises. Mais une jouissance amoureuse, une superstition, me les faisait chérir en pensant que je m'identifiais à quelque parcelle de l'être que j'adorais. Madame F., par une certaine sympathie sans doute, en était folle. Elle soutenait à tout le monde que c'était un remède universel. Et sachant être maîtresse de l'auteur, elle ne s'enquérait pas du secret de leur composition. Mais ayant observé que je n'en donnais que de celles qui étaient dans la bonbonnière d'écaille et que je n'en mangeais que de celles de cristal, elle m'en demanda un jour la raison. Sans y réfléchir, je lui dis que dans celles que je mangeais, il y avait quelque chose qui forçait à l'aimer. Oh, je n'en crois rien. Mais elles sont donc différentes de celles que je mange moi-même? Non, 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 elles sont pareilles, à cela près que l'ingrédient qui force à vous chérir n'est que dans les miennes. Mais dites-moi ce que c'est que cet ingrédient. Non, c'est un secret que je ne puis vous révéler. Et moi, je ne mangerai plus de vos dragées. En disant cela, elle se lève, vide sa bonbonnière et la remplit de diablotin. Puis elle boude et continue les jours suivants, évitant de se trouver seule avec moi. Cela me chagrinant, je deviens triste, mais je ne puis me résoudre à lui dire que je mange de ses cheveux. 4 ou 5 jours après, elle me demanda pourquoi j'étais triste. Parce que vous ne mangez plus de mes dragées. Mais vous êtes le maître de votre secret, moi de manger ce que je veux. Mais voilà ce que j'ai gagné à vous faire une confidence. En disant cela, j'ouvre ma bonbonnière de cristal et je la vide tout entière dans ma bouche en disant « Encore 2 fois, je mourrai fou d'amour pour vous. Alors vous vous trouverez vengé de ma réserve. Adieu, madame. » Elle me rappelle, me fait asseoir auprès d'elle, en me disant de ne pas faire des folies qui la chagrineraient. car je savais qu'elle m'aimait. Je devais bien savoir qu'elle ne croyait pas que ce fût par la vertu de quelque drogue. Pour vous rendre certain que vous n'en avez pas besoin pour être aimé, voici un gage de ma tendresse. Elle approche sa belle bouche et j'y colle la mienne jusqu'à ce que j'aie été forcé de la quitter pour respirer. Je me jette alors à ses pieds, les yeux mouillés de larmes de tendresse et de reconnaissance. Je lui dis que si elle me promet de me pardonner, je vais lui avouer mon crime. Crime ? Oh, vous m'effrayez. Je vous pardonne, dites-moi vite tout. Oui, tout. Mes dragées, renferme vos cheveux réduits en poudre. Voici à mon bras ce bracelet où nos noms sont tracés avec vos cheveux. Et voici à mon cou ce cordon avec lequel je veux cesser de respirer quand vous ne m'aimerez plus. Tels sont mes crimes, et je n'en aurais pas commis un seul si je ne vous adorais. Elle rit, me relève, et me dit qu'effectivement j'étais le plus criminel des hommes. Elle essuya mes larmes en m'assurant que je ne m'étranglerais jamais. Après cette conversation, ayant savouré le nectar du premier baiser de ma divinité, j'eus la force de me régler à son égard d'une façon toute différente. Elle me voyait ardent, elle était peut-être brûlante, et j'avais la force de m'abstenir de toute attaque. « D'où vient, me dit-elle un jour, que vous avez trouvé la force de vous dominer ?» Après le tendre baiser que vous m'avez accordé de votre plein gré, j'ai senti que je ne devais aspirer à rien qu'à ce que votre cœur vous portera à m'accorder de même. Vous ne sauriez vous figurer la douceur que ce baiser m'a procurée. Mais pourrais-je l'ignorer, ingrat ? Qui de nous deux a procuré cette douceur ? Mais ni vous ni moi, femme adorable. Il fut le produit de l'amour, ce baiser si tendre et si doux. Oui, mon ami, l'amour, dont les trésors sont inépuisables. Elle n'avait pas achevé que nos lèvres étaient occupées à l'unisson. Elle me tenait si fortement contre son sein que je ne pouvais faire agir mes mains pour me procurer d'autres jouissances. Mais je me sentais heureux. À la fin de cette charmante lutte, je lui demandais si elle croyait que nous en resterions toujours là. Mais toujours, mon ami, et jamais davantage. L'amour est un enfant qu'on doit apaiser par des badinages. Une nourriture trop forte ne peut que le faire mourir. Oh, je le connais mieux que vous. Il veut une nourriture substantielle. Et quand on s'obstine à la lui refuser, il sèche. Ne me refusez pas la douceur d'espérer. Espérez, si vous y trouvez votre compte. Mais que ferais-je sans cela ? J'espère, car je sais que vous avez un cœur. À propos, vous souvenez-vous du jour où, dans votre colère, vous me dites que je n'avais que de l'esprit ? Croyez me dire une grosse injure ? « Oh oui, et que je ris de bon cœur dès que je réfléchis. Oui, mon ami, j'ai un cœur, et sans lui maintenant je ne me trouverais pas heureuse. Maintenons-nous dans notre bonheur actuel, et sachons être contents sans désirer davantage. » Soumise à ses lois, mais chaque jour plus amoureux, j'espérais que la nature à la longue, toujours plus puissante que les préjugés, amènerait une crise heureuse. Mais, outre la nature, la fortune aussi m'aida à parvenir. J'en eus l'obligation à un malheur. Un jour qu'elle se promenait dans un jardin, appuyée sur le bras de M. D.R., elle s'accrocha à un buisson de roses sauvages. Il se vit une profonde écorchure au bas de la jambe. GDR lui serra d'abord la blessure avec son mouchoir, afin d'arrêter le sang qui en sortait avec abondance, et on fut obligé de la porter à la maison sur un palanquin. D'accord, fou, les blessures aux jambes sont dangereuses quand on ne les soigne pas bien, et souvent, pour les faire cicatriser, on est obligé de s'en éloigner, obligé de garder le lit. Mon heureux emploi me condamna à rester constamment à ses ordres. Je la voyais à chaque instant, mais les 3 premiers jours, les visites se succédèrent sans interruption. Je ne fus jamais seul avec elle. Le soir, quand tout le monde avait disparu, que son mari s'était retiré, M. D.R. restait encore 1 heure, et alors la décence exigeait que je la quittasse quand ce dernier sortait. Je me trouvais beaucoup plus à l'aise avant l'accident, et je le lui dis d'un ton moitié gai, moitié triste. Le lendemain, elle me procura un moment heureux pour me dédommager. Un vieil esculape venait tous les matins au point du jour pour la panser, et alors il n'y avait de présent que sa femme de chambre. Mais je me rendais en négligé chez cette fille pour être le premier à savoir comment ma divinité se portait. Ce jour-là, la femme de chambre vint me dire d'entrer au moment où le chirurgien la pansait. « Priez, je vous prie, si ma jambe est moins rouge. » « Pour pouvoir le dire, madame, il faudrait que je l'eusse vue hier. »«
C'est vrai, oui. J'ai des douleurs et je crains les résipelles. »«
Non, ne craignez rien, madame, » dit le docteur. « Gardez le lit et je suis sûr de vous guérir. » Le chirurgien étant alors occupé près de la fenêtre, préparé un cataplasme, et la femme de chambre étant sortie, je lui demandais si elle sentait de la douleur dans le gras de la jambe et si la rougeur montait en sillonnant plus haut. Il était naturel que j'accompagnasse ces questions de mes mains et de mes yeux. Je ne vis ni rougeur ni dureté, mais... Et la tendre malade s'empressa d'un air riant de baisser la toile en me laissant prendre un tendre baiser dont depuis 4 jours je ne savourais plus la douceur. Fureur d'amour, délire plein de charme. De ses lèvres, je descendis à sa blessure, et persuadé dans cet instant que mes baisers devaient être le meilleur spécifique, j'aurais continué si le bruit que fit la femme de chambre en rentrant ne m'avait contraint de cesser. Resté seul avec elle et brûlant de désir, je la conjurais de faire au moins le bonheur de mes yeux. « Je me sens humilié, lui dis-je, en pensant que le bonheur dont je viens de jouir n'est qu'un vol.
Mais si tu te trompes... »
Le lendemain, j'assistais de même au pansement. Mais dès que le chirurgien fut parti, elle me pria de lui arranger ses coussins, ce que je fis à l'instant. Elle, comme pour me faciliter cette agréable besogne, souleva la couverture afin de s'appuyer et me facilita ainsi la vue d'une foule de beautés dont mes yeux s'enivraient, et je prolongeai l'occupation sans qu'elle trouvât que j'allasse trop lentement. Quand j'eus fini, je n'en pouvais plus, et je me jetai dans son fauteuil en face d'elle, absorbé dans une sorte de recueillement. Je contemplais cet être ravissant qui, sans air apparent, ne me procurait jamais un plaisir que pour m'en accorder un plus grand, sans jamais arriver au but. « Mais à quoi pensez-vous ? » me dit-elle. « Au bonheur suprême dont je viens de jouir. Vous êtes un homme cruel. »« Non, je ne suis pas cruel. Car, puisque vous m'aimez, vous ne devez pas rougir d'être indulgente. » Songez aussi que pour vous aimer passionnément, il ne faut pas que je croie que c'est par surprise que j'ai joui d'une vue ravissante, car si ce n'était que par hasard, je serais forcé d'admettre que tout autre à ma place aurait eu le même bonheur. Et cette idée ferait mon supplice. Laissez-moi vous devoir la douce reconnaissance de m'avoir appris ce matin combien je puis être heureux par un seul de mes sens. Pouvez-vous être fâché contre mes yeux? Oui. Ils sont à vous, arrachez-les-moi. Le jour suivant, dès que le docteur fut parti, elle envoya sa femme de chambre faire quelques emplettes. « Ah !» me dit-elle, quelques instants après, « elle a oublié de me passer une chaise. Hélas, mais souffrez que je la remplace. Oui, mais songe que je ne permets pas qu'à tes yeux d'être de la partie. J'y consens. » Elle se délasse, ôte son corset et sa chemise, en me disant de lui passer vite la blanche. Mais comme j'étais trop occupé de tout ce que je voyais, et que je n'allais pas vite, « Passe-moi donc ma chemise, me dit-elle, elle est sur la petite table. »« Où ? Là, au pied du lit, je la prendrai moi-même. » Se penchant alors vers la table, elle découvre la presque totalité de tout ce que je désirais. Et, se relevant lentement, elle me donne la chemise que je ne pouvais tenir tant je frissonnais de bonheur. Elle a pitié de moi. Mes mains partagent le bonheur de mes yeux. Je tombe entre ses bras, nos lèvres se confondent. Et tous deux, dans une voluptueuse pression, nous éprouvons une défaillance amoureuse insuffisante pour nos désirs, mais assez douce pour les tromper un moment. Plus maîtresse d'elle-même qu'on ne l'est d'ordinaire en pareilles circonstances, elle eut soin de ne me laisser parvenir qu'au parvis du temple. L'entrée du sanctuaire ne devant pas être encore bon partage.